genau, das ist die Veranstaltung mit dem Titel Pushback against Frontex, Geschichte und Gegenwart des Widerstands. Ich höre hier rein und höre, dass Sie schon sich vorbereiten, die Übersetzungen vorbereiten. Ich spiele euch einen kurzen Jingle und dann hören wir doch direkt in die Veranstaltung rein, hier auf dem Kaserne-Roll. Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz.
Kapitalismus macht Krieg,
macht Genozid,
macht Ausbeutung.
Kapitalismus macht krank.
Darum dieses Jahr umso mehr.
Alle auf die Straßen am 1. Mai.
Radio Lora live dabei.
Ich höre hier rein in diese Veranstaltung von Pushbacks against Frontex.
Gut, ich probiere es nochmal. Wenn ihr euch jetzt Kopfhörer holt wegen der Übersetzung, nützt doch die Gelegenheit, noch etwas näher ans Podium heranzusitzen.
Den Leuten wird gesagt, dass sie Kopfhörer nehmen könnt. Ihr könnt zu Hause oder wo auch immer ihr seid, das Volume hochschalten und dann diese Veranstaltung genießen. Vielleicht sind Sie doch noch nicht ganz bereit mit dieser Veranstaltung. Bis Sie bereit sind, hören wir einen kurzen Jingle und dann hoffentlich in die Veranstaltung rein.
Von der Bewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen... Lora braucht. Money. Money. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt, ich hab verfickt nochmal kein Geld, kein Moos, keine Knete, kein Sasser, keine einzige.
Lora.ch.
Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz live vom Kaserneareal. Wir übertragen die verschiedenen politischen Veranstaltungen hier und werden nun die Veranstaltung mit dem Titel Pushbacks gegen Frontex, Geschichte und Gegenwart des Widerstands hören. Und ich denke, Sie werden sehr bald bereit sein mit der Veranstaltung. Ich sehe auch auf der Seite, wie immer mehr Leute reingehen. Und sobald Sie ready sind, sind auch wir ready.
Back against Frontex, Geschichte und Gegenwart des Widerstands. Ich nütze den Moment ganz am Anfang nochmal darauf hinzuweisen, die Veranstaltung wird französisch-deutsch sein und es gibt eine Simultanübersetzung. An dieser Stelle, damit es nicht vergessen geht, vielen herzlichen Dank an Philipp, der die Übersetzung macht. Die Kopfhörer gibt es beim Tisch beim Eingang. Genau, man muss eine ID abgeben, dann bekommt man einen Kopfhörer. Es ist der Kanal 2, der ist schon eingestellt. Und eine wichtige Bitte, am Schluss der Veranstaltung bitte die Kopfhörer rasch zurückgeben, weil die nächste Veranstaltung die Kopfhörer dann auch wieder braucht. Gut, wenn jetzt alle mit Kopfhörer versorgt sind, die das möchten, dann können wir beginnen. Nochmals herzlich willkommen. Diese Veranstaltung wird organisiert vom Solinetz Zürich und von der Autonomen Schule Zürich. Die muss man jetzt hier in Zürich nicht unbedingt lange vorstellen. Ich möchte trotzdem je zwei Sätze sagen. Beide sind nämlich im Jahr 2009 entstanden, im Nachgang zu einer Asylgesetzrevision und auch zur Installation des sogenannten Nothilferegimes. Und kurz gesagt ist das Solinetz eine Koordinationsstelle für sehr, sehr viele verschiedene Freiwilligen, Aktivitäten, eine Freiwilligenarbeit, eine gut etablierte Organisation hier. Und die Autonome Schule geht auch zurück eben auf das Jahr 2009 und auf die Besetzung der Predigerkirche bei der Zentralbibliothek durch ein Bleiberecht-Kollektiv. Die Autonome Schule hat sich dann zu einem selbstverwalteten migrantischen Bildungsprojekt entwickelt. Das sieht man am Slogan Bildung für alle. Wer mehr zur Geschichte der Autonomen Schule wissen will, beim Tisch, wo auch die Kopfhörer erhältlich sind, liegt eine Zeitung, Shipwreck of Dreams. Die hat ein Künstler und Aktivist der Autonomen Schule, Emilio Nasser, gestaltet. Darin wird die Geschichte der Autonomen Schule verknüpft mit einer Legende, einer alten Legende vom Genfer See. Das ist sehr passend, denn wir haben, ich komme dazu gleich, heute einen Gast aus Genf. Genau, in dieser Zeitung, da kann man sich ein Exemplar mitnehmen, wenn man will, erfährt man mehr zur Geschichte der Autonomen Schule. Und es gibt auch einen Text zur Geschichte der Asylbewegung, des asylpolitischen Protests und Engagements in der Schweiz zwischen 1973 und 2000. Dieser Text stammt von mir, deshalb hier ganz kurz zwei Worte zu mir. Mein Name ist Jonathan Perli, ich bin Historiker und im Herbst wird ein Buch von mir erscheinen, eben zur Geschichte der Asylbewegung in der Schweiz. Die hat sich die andere Schweiz, l'autre Suisse, genannt. Und da ist schnell auch in den 1980er Jahren vor allem dann die europäische Dimension Schengen-Dublin rasch zu einem Thema geworden. Jetzt ganz kurz, bevor ich unsere Gäste vorstelle, zu Frontex und zu unserem Thema. Etwa vor zwei Jahren, ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern, gab es das Referendum gegen den erhöhten Beitrag der Schweiz zu dieser Europäischen Grenzschutz- und Küstenwachagentur. In diesem Zusammenhang ist für Schweizer Verhältnisse sehr viel über Frontex gesprochen worden, was sie tut, nicht tut, tun sollte oder endlich aufhören sollte zu tun. Seither ist es wieder vergleichsweise ruhig geworden. Deshalb haben wir gedacht, es ist ein guter Moment, die Debatte über Frontex zu versuchen wieder aufzunehmen. Der Anlass hierfür, und das möchte ich noch zeigen, Frontex ist 2005 entstanden, hatte damals ein Jahresbudget von 6 Millionen Euro. 2021 waren es knapp 10-mal mehr und ab 2027 werden es 5,6 Milliarden Euro sein. Frontex ist jetzt im Begriff, eine wirklich ständige Polizeikraft auszubilden mit 2000 Leuten, die in Uniform und bewaffnet ständig für Frontex überall aktiv sein können, mit mehreren tausend Reserveleuten, mit eigenen Drohnen, Schiffen und Fahrzeugen. Also wir haben hier einen historischen Moment in der Entwicklung von Frontex und der Europäischen Union und des Schengen-Raums natürlich, wo die Schweiz mit dabei ist. Angesichts dieser Entwicklung von Frontex sind wir sehr froh. Damit komme ich zu unseren Gästen. Wir haben Marie-Claire Galotschop bei uns. Sie ist Philosophin, hat auch als Sozialarbeiterin gearbeitet. Sie ist asylbewegt seit fast eh und je, sicher seit den frühen 1980er Jahren, als die Asylbewegung in der Schweiz entstanden ist. Sie hat in Südamerika gelebt, länger in den 1970er Jahren, wenn ich recht informiert bin. Und von ihr ist Ende letztes Jahr dieses Buch erschienen, Frontex, le spectre des disparus, nihilisme politique aux frontières. Und das war für uns der Anlass, dieses Podium hier am 1. Mai zum Thema Frontex zu organisieren. Dann zur Linken von Marie-Claire sitzt Shishai Haile. Ich lese hier seine E-Mail-Signatur vor, die mir sehr gefallen hat. Es steht dort: Migrationsfachmann, intercultureller Brückenbauer und Dolmetscher. Brücken bauen, das ist auch das, was wir heute versuchen. Wir haben eben jemanden zum Glück aus der Romandie hier. Wir haben eine Philosophin, wir haben zwei Leute, darunter eben Shishai, die stärker aus der Praxis kommen, und wir versuchen hier die verschiedenen Ebenen der Debatte und der Erkenntnisse in Bezug auf Frontex miteinander ins Gespräch zu bringen. Shishai Haile, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, gehört auch zu den Mitbegründern des sogenannten Flüchtlingsparlaments. Das ist 2021 entstanden, zum ersten Mal stattgefunden. Das ist eine Initiative des NCBI, das NCBI, das National Coalition Building Institute, gibt es in der Schweiz, gibt es auch in anderen Ländern. Und das ist ein Verein, der darauf zielt, Brücken zu bauen im Kampf gerade auch gegen Rassismus und Diskriminierung. Dann ganz zu meiner Linken Lorenz. Er ist seit der Gründung, wenn es mir recht ist, des Alarm Phones engagiert und war auch stark bei der No Frontex Kampagne, also beim Referendum, mit dabei. Und er wird vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen. Von ihm und einer Mitautorin, Sophie Guignard, ist ein Text in diesem Buch von Marie-Claire Galotschop. So, das sind unsere Gäste. Ganz kurz noch zum Ablauf. Ausgehend von ihrem Buch wird Marie-Claire zuerst mit einem Anfangsinput von, ich habe gesagt, höchstens 15 Minuten anfangen. Warum das Buch? Was ist die Problematik von Frontex? Wie denken und was tun? Und dann kommen wir in die Diskussion. Shishai und Lorenz werden auch ihre Sicht einbringen. Wir debattieren auf dem Podium und mindestens 20 bis 30 Minuten habe ich auch für Fragen, Kommentare aus dem Publikum vorgesehen. Soweit also zum Ablauf und von meiner Seite. Ich gebe das Wort an Marie-Claire.
Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à ce débat et je remercie mon collègue ici particulièrement et je remercie aussi quelqu'un qui va faire la traduction du français à l'allemand. Ah, d'accord, tu vois, il y a la lumière qui arrive. Alors, je vais parler d'un livre qui est sorti en mai 1953. Il y a, dans ce livre, il y a une bonne critique sur Frontex. Il y a un texte de Solidarité sans frontières aussi sur pourquoi la résistance face à Frontex. Il y a une analyse de Christophe Taffelmacher en tant que juriste, et il y a Claude Calame qui parle de crimes contre l'humanité dans la partie Frontex. Ça, c'est le socle de départ. Et moi, ici, j'ai des idées sur Frontex, j'ai des propositions, mais ce n'est pas ce que je vais mettre en avant aujourd'hui. Il y a 50 ans que je lutte de toutes sortes de manières, et je suis encore vivante. Et je me demande pourquoi je suis encore vivante. Si vous voulez, à un moment, c'est un bilan. Je suis à un moment de bilan face à deux choses. Il y a une aggravation de la situation que Frontex montre bien, mais pas seulement. Et il y a des luttes qui sont en train de changer. Et ça, c'est très intéressant. Parce que depuis les années 80, avec Schengen, qui était la liberté du marché, mais en fait la mise en place de la police, eh bien, les choses, le tournant a été, comment dire, pas perçu avec assez de radicalité que ça impliquait. Il y a quelqu'un à qui je rends hommage ici, qui a fait ce, qui a eu cette intuition, cette lucidité, c'est Nicolas Bouche de Longomaille, qui a créé Fortress Europe. Et nous nous sommes retrouvés dans le groupe de Genève, violence et droit d'asile en Europe, avec un parlementaire européen, avec des professionnels, avec des activistes, justement parce que nous étions très préoccupés de ce tournant de violence et de ce tournant de violence qui touchait pas seulement les requérants, hein, les exilés, mais les professionnels. Il y a des délits de solidarité, des attaques qui ont eu lieu depuis là et qui se sont mises gentiment en place. Et étions-nous préparés à ça? Par exemple, une des choses qui va m'intéresser derrière Frontex et aussi dans le mouvement d'asile, c'est la présence du discours humanitaire, du discours sur les droits de l'homme non critique. Et là, moi-même, en ayant fait une thèse sur Hannah Arendt, sur les sans-États et le droit d'avoir des droits, qui a été quelque chose, un socle pour nous tous, eh bien, j'ai lu que Hannah Arendt n'était pas naïve sur les droits de l'homme. Parce qu'au moment où elle écrivait ce texte, il y avait la conférence d'Évian sur les réfugiés, qui ont aucune décision, comme aujourd'hui, si vous voulez, pratique, et en même temps, le nazisme, le fascisme qui avançait. Et elle disait, ça sert à quoi les droits de l'homme? Ça sert à quoi? Il vaut mieux défendre les droits des animaux, les droits... Mais ça sert à quoi politiquement? C'est-à-dire, elle avait une approche politique des droits de l'homme et non pas humanitaire. Et comme je suis devant un public d'activistes aujourd'hui, de gens qui réfléchissent, j'ai travaillé moi-même 8 ans en action humanitaire à l'Université de Genève. Vous savez que le CICR est très proche de Genève. Et j'ai vu arriver, avec la crise de la gauche, avec ce tournant de la violence, un discours humanitaire. Un discours humanitaire, et je vous donne un exemple. Quand j'étais à l'université, j'ai invité François Rigaud, qui était le président du droit des peuples, pour lui dire, mais explique-nous ce qu'est l'action humanitaire. Et il a dit, l'action humanitaire dans l'histoire du droit international, c'est le droit de la guerre. Il a dit cela, c'est un juriste renommé. Quand j'ai voulu publier cet article à l'Université de Genève, on m'a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je suis allée à Strasbourg avec des amis qui travaillaient à l'Université de Strasbourg et qui travaillaient avec le mouvement d'asile. Et ils ont publié ce texte, il est revenu en Suisse. Hein, l'action humanitaire, c'est le droit de la guerre. Donc, quand il y a ce tournant humanitaire, en même temps que diminuent les droits de l'homme, si vous voulez, hein, par exemple les droits des réfugiés, eh bien, ça veut dire quelque chose. Et j'ai constaté, par exemple, que ça a pris de l'importance chez les professionnels du social, hein, comme référence. En même temps que ce qui était les références des droits fondamentaux diminuait. Et ça, c'est pour moi, c'est un signe que la guerre était en train d'arriver en Europe. Hein, elle n'était pas seulement en ex-Yougoslavie, comme guerre de fondation, comme a dit Rada Ivekovic, qui était aussi au groupe de Genève avec Balibar et d'autres. Hein, eh bien, ce qui était en train d'arriver, c'était la guerre en Europe, mais on ne la voyait pas arriver. La guerre aux migrants, mais ça paraissait un slogan insolent, irréaliste. Hein, et au fond... Ça fait, il y a une 20aine d'années. Ce n'est pas très longtemps. Et alors aujourd'hui, quand il fallait réfléchir à Frontex, je me suis rappelé de Nicky Bush qui disait « police ou politique ?» Ça, c'était 1993. Et aujourd'hui, on doit dire « police guerrière, guerre ou politique ?» Si vous voulez, ça veut dire que le climat s'est beaucoup détérioré. Et au fond, quand vous défendez les droits de gens concrets, je donne encore deux exemples, parce que pour moi, ils m'ont, je dirais, politisé, au sens le plus radical du terme. J'ai défendu les droits d'un Kurde qui avait fait 8 ans de prison, qui avait été torturé. Et il arrive en Suisse et on prend sa demande d'asile dans une commune, d'ailleurs, parce qu'avant, il n'y avait pas encore les camps. On prend dans une commune, pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Et Hüseyin Sevin, il s'appelait, il me téléphonait à 3h du matin, il me disait « Qu'est-ce qu'ils font à Berne? Je ne comprends pas, mon dossier, il est solide, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Jusqu'au jour où j'ai dit « Il va se suicider, ce type. » Et à 7h30 le matin, j'ai téléphoné au HCR. Et j'ai dit « C'est un dossier solide. Qu'est-ce qui se passe avec ce dossier ?» Je vous avertis, et je vous demande d'avertir les autorités fédérales, que s'il n'y a pas une décision, ils se rappelleront de la manifestation que nous allons faire quand Hüseyin Sevin se suicidera. Il était convoqué à Berne 15 jours après, et au bout de 8 ans, il a reçu le droit d'asile. Mais sa situation psychique était extrêmement rude, la situation de sa famille aussi, etc. Cette chose-là m'a dit « Qu'est-ce qui se passe dans cette violence qui est autre chose que de la simple répression policière ?» Deuxième cas, le cas d'Alphonse Maza et de sa famille. 3 enfants, une femme, 15 ans de séjour à Genève, qui se fait arrêter pour être expulsée. Je me promenais dans le quartier de la Jonction pour les chercher, ils n'étaient plus là. Alors je me suis dit, tiens, ils ont déjà été mis dans l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les voisins viennent, ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais je ne sais pas ce qui se passe avec les Mazas, ils ne sont plus là. J'ai des craintes. Et ils me disent, venez parler dans le quartier. Et en fait, il avait été arrêté pour être expulsé. Donc un comité s'est constitué. Et quand on était... et Alphonse Maza a été mis à Chandolon, c'est-à-dire en prison, où je suis allée le voir, et il était accusé de mise en cause de la sécurité de l'État. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que ça vous évoque? Quand on vous dit... Quand on vous donne un article de loi qui évoque le terrorisme. Et alors, moi, j'ai discuté avec Alphonse et je lui ai dit, tu sais, si tu as fait des actions terroristes, on en débattra en public, hein, parce que moi, je n'assume pas. Il était allé avec Jean Sigler en Libye, en fait. Et cette lutte a duré 3 ans. Et finalement, Alphonse Maza a été expulsé à Cuba. Il a vécu 5 ans à Cuba avec sa famille. Tous les enfants des écoles qui étaient avec leurs enfants, Béatrice, sa femme, etc., étaient à l'aéroport. C'était impressionnant, ce mouvement qui accompagnait cette famille. Et Peter Arbenz téléphone pour me demander comment on va faire organiser le départ, parce que finalement, on l'a caché. On l'a caché pour empêcher que la police le ramasse. Hein. Et alors, on a dit, on le sortira, d'accord, la Suisse ne le veut pas, mais il sera conduit avec dignité, il sera accompagné à l'aéroport, et il me dit, mais vous prévoyez combien de gens? J'ai dit, vous savez, au bout de 15 ans, ça fait beaucoup, organiser une fête, ça fait une grande fête. Hein. Et je me disais, les vitrines de l'aéroport vont sauter, ça va être terrible, il faudra gérer ça. Et il me dit, je lui dis, mais écoutez, moi, j'assume pas. Hein. J'assume pas ça. Monsieur Arben, ça, j'assume pas. Et il me dit, quittez. Écoutez, nous serons là. Et l'aéroport était bourré de flics au moment où ils ont été expulsés, aussi de journalistes et aussi de public, etc. Donc, ça fait 15 minutes. Bon. Alors, en deux minutes, peut-être, maintenant je peux situer mon livre, mais je dis que ces choses-là ont marqué mon fait, à la fois mon fait ancré de manière plus qu'humanitaire, mes actions. Pour résumer, on pourra en débattre au moment du débat. Et deuxième chose, en arrivant à 80 ans, j'ai eu envie de dire ce que j'avais dans le ventre. C'est-à-dire, au fond, pourquoi toutes ces années, 50 ans, j'avais pas lâché le morceau. Et je me suis dit, quand Frontex a eu lieu, je me suis dit, au fond, c'est quoi Frontex ? Et il se trouve que j'avais eu des expériences en Amérique latine et j'avais connu de très près des disparus, des familles de disparus. Et il y a les 30 000 bloqués aux frontières et il y a les chiffres sur les disparus ne sont pas si clairs, mais j'ai été très frappée par la lutte des maires de la place de Mai qui demandaient deux choses. L'habeas corpus, montrer le corps. C'est-à-dire, elle faisait comme les féministes, elle mettait l'accent sur le corps de gens qui étaient à la fois liquidés, disparus, et vivants par leur lutte, si vous voulez. Ça m'a frappée. Et je me suis aussi beaucoup interrogée sur pourquoi il y avait des Italiens qui faisait partie du personnel qui avait été chercher des corps après un gros naufrage. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher des corps pour les enterrer ? Je me suis dit, mais pourquoi ils font ça ? Et alors là, les revendications sur le social, elles sont un peu courtes. Hein, et les revendications sur l'humanitaire, elles sont un peu courtes. Et il faut aller regarder plus loin. Et c'est pour ça que je vous invite à lire le livre, je ne vais pas vous le réciter, mais ici le développer. Mais je vous invite à le lire pour savoir si vous partagez cette thèse que je pose du nihilisme politique au XXIe siècle. Et c'est un nihilisme différent de Netchaïev, l'anarchiste russe du XIXe siècle. C'est un nihilisme différent de Nietzsche, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Et je vais terminer là-dessus. Quand on se trouve en face du nihilisme, je me suis dit, mais en fait, hein, on est dans une situation de nihilisme, mais qu'est-ce que c'est ce nihilisme ? Et les disparus, c'est justement les spectres, comme on dit en français, mais la présence absente, l'absence dans le néant de gens jetés à la mer, etc., et aujourd'hui qui meurent aux frontières, et qui sont présents grâce aux luttes. Mais pourquoi ces femmes luttent ? À un moment donné, pourquoi ces soldats vont chercher, ces professionnels vont chercher des gens dans la mer ? Pourquoi Solidarité sans frontières se bat pour Frontex ? Se bat dans des situations extrêmement difficiles et traverse, au fond, moi-même j'ai participé à l'organisation de ce qui est devenu Solidarité sans frontières. Et ça a tout traversé. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on doit faire un pas qualitatif, politique, philosophique, de réflexion radicale. C'est-à-dire, on ne peut plus en rester à l'humanitaire. Et au fond, si vous réfléchissez à l'hospitalité politique et l'habeas corpus, si vous réfléchissez, et là, j'aimerais souligner un aspect qui m'apparaît très important,